Aristote, Physique, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire, livre 2, de la nature, chapitre 1er, sommaire. Définition de la nature. Elle est, dans les êtres, le principe du mouvement et du repos, des êtres naturels. L'existence de la nature est évidente. Il n'est pas nécessaire de la démontrer. La matière des choses n'est pas leur nature. Étrange opinion d'Antiphon. Définition diverse de la nature. Unité et pluralité des principes. La nature est surtout la forme des êtres. De la privation. Paragraphe 1. Parmi les êtres que nous voyons, les uns existent par le seul fait de la nature, et les autres sont produits par des causes différentes. Paragraphe 2. Ainsi, c'est la nature qui fait les animaux et les parties dont ils sont composés. C'est elle qui fait les plantes et les corps simples, tels que la terre, le feu, l'air et l'eau. Car nous disons de tous ces êtres, et de tous ceux du même genre, qu'ils existent naturellement. Paragraphe 3. Tous les êtres que nous venons de nommer présentent évidemment, par rapport aux êtres qui ne sont pas des produits de la nature, une grande différence. Les êtres naturels portent tous en eux-mêmes un principe de mouvement ou de repos. Soit que pour les uns, ce mouvement se produise dans l'espace, soit que pour d'autres, ce soit un mouvement de développement et de destruction, soit que pour d'autres encore, ce soit un mouvement de simple modification dans les qualités. Au contraire, un lit, un vêtement ou tel autre objet analogue n'ont en eux-mêmes, en tant qu'on les rapporte à chaque catégorie de mouvement, et en tant qu'ils sont les produits de l'art, aucune tendance spéciale à changer. Ils n'ont cette tendance qu'en tant qu'ils sont indirectement et accidentellement ou de pierre ou de terre ou un composé de ces deux éléments. Paragraphe 4. La nature doit donc être considérée comme un principe et une cause de mouvement et de repos pour l'être où ce principe est primitivement et en soi et non pas par simple accident. Paragraphe 5. Voici ce que j'entends quand je dis que ce n'est pas par simple accident. Ainsi, il peut très bien se faire que quelqu'un qui est médecin se rende à lui-même la santé. Cependant, ce n'est pas en tant qu'il est guéri qu'il possède la science de la médecine. Et c'est un pur accident que le même individu soit tout ensemble et médecin et guéri. Aussi est-il possible que ces deux choses soient parfois séparées l'une de l'autre. Paragraphe 6. Il en est de même pour tous les êtres que l'art peut faire. Il n'est pas un seul d'entre eux qui est en soi le principe qui le fait ce qu'il est. Mais pour les uns, ce principe est dans d'autres êtres, et il est extérieur, par exemple, une maison et tout ce que pratique la main de l'homme. Pour les autres, ils ont bien en eux ce principe, mais ils ne l'ont pas par leur essence, et ce sont tous ceux qui ne deviennent qu'accidentellement les causes de leur propre mouvement. Paragraphe 7. La nature est donc ce que nous venons de dire. Paragraphe 8. Les êtres sont naturels et ont une nature quand ils ont le principe qui vient d'être défini. Et ils sont tous de la substance. Car la nature est toujours un sujet et elle est toujours dans un sujet. Paragraphe 9. Tous ces êtres existent selon la nature, ainsi que toutes les qualités qui leur sont essentielles, comme, par exemple, la qualité inhérente au feu de monter toujours en haut, car cette qualité n'est pas précisément une nature et n'a pas de nature à elle. Seulement, elle est dans la nature et selon la nature du feu. Paragraphe 10. Ainsi, nous avons expliqué ce que c'est que la nature d'une chose et ce qu'on entend par être de nature et selon la nature. Paragraphe 11. Mais essayer de prouver l'existence de la nature, ce serait par trop ridicule, car il saute aux yeux qu'il y a une foule d'êtres du genre de ceux que nous venons de décrire. Or, prétendre démontrer les choses d'une complète évidence au moyen de choses obscures, c'est le fait d'un esprit qui est incapable de discerner ce qui est ou n'est pas notoire de soi. C'est là du reste une erreur très concevable et il n'est pas malaisé de s'en rendre compte. Que quelqu'un qui serait aveugle de naissance s'avise de parler des couleurs, il pourra bien sans doute prononcer les mots, mais nécessairement il n'aura pas la moindre idée des choses que ces mots représentent. Paragraphe 12. De même, il y a des gens qui s'imaginent que la nature et l'essence des choses que nous voyons dans la nature consistent dans l'élément qui est primitivement dans chacune de ces choses, sans avoir par soi-même aucune forme précise. Ainsi, pour ces gens-là, la nature d'un lit, c'est le bois dont il est fait. La nature d'une statue, c'est les reins qui la composent. Paragraphe 13. La preuve de ceci, au dire d'Antiphon, c'est que si on enfouissait un lit dans la terre et que la pourriture eut assez de force pour en faire encore sortir un rejeton, ce n'est pas un lit qui serait reproduit, mais du bois. Parce que, disait-il, l'un n'est qu'accidentel, à savoir une certaine disposition matérielle qui est conforme aux règles de l'art, tandis que l'autre est la substance vraie qui demeure, tout en étant continuellement modifiée par les changements. Et Antiphon ajoutait que chacune des choses que nous voyons, soutenant avec une autre chose un rapport tout à fait identique, par exemple le rapport que les reins et l'or soutiennent à l'égard de l'eau, ou bien les eaux et les bois à l'égard de la terre, et de même, pour tout autre objet, on peut dire que c'est là la nature et la substance de ces choses. Paragraphe 14. Voilà comment certains philosophes ont cru que la nature des choses, c'est la terre, d'autres que c'est le feu, d'autres que c'est l'air, d'autres que ce sont quelques-uns de ces éléments, et d'autres enfin que ce sont tous les éléments réunis. Car l'élément dont chacun de ces philosophes admettait la réalité, soit qu'il n'en prit qu'un seul, soit qu'il en prit plusieurs, devenait entre leurs mains principe unique ou principe multiple, la substance tout entière des êtres. Et tout le reste alors n'était plus que les affections, les qualités et les dispositions de cette substance. Paragraphe 15. On ajoutait que chacune de ces substances est éternelle, attendu qu'elles n'ont pas par elles-mêmes de cause spontanée de changement, tandis que tout le reste naît et périt des infinités de fois. Paragraphe 16. Ainsi, en un sens, on peut appeler nature cette matière première placée au fond de chacun des êtres qui ont en eux-mêmes le principe du mouvement et du changement. Paragraphe 17. Mais, à un autre point de vue, la nature des êtres, c'est la forme et l'espèce qui est impliquée dans la définition. Car de même qu'on appelle art ce qui est conforme à l'art et qui est un produit de l'art, de même on appelle nature ce qui est selon la nature et ce qui est un produit de la nature. Mais de même que nous ne dirions jamais qu'une chose est conforme aux règles de l'art, ou qu'il y ait de l'art en elle, si elle n'est encore qu'en puissance, un lit, par exemple, et si ce lit n'a point encore reçu la forme spécifique d'un lit. De même non plus, en parlant des êtres que fait la nature. Car la chair et l'os, lorsqu'ils ne sont qu'en puissance, n'ont pas encore leur nature propre, jusqu'à ce qu'ils aient revêtu cette espèce et cette forme qui est impliquée dans leur définition essentielle et qui nous sert à déterminer ce qu'est la chair et ce qu'est l'os. On ne peut pas dire alors davantage qu'ils sont de nature, et par conséquent, en un sens différent de celui qui vient d'être indiqué, la nature, pour les êtres qui ont en eux-mêmes le principe du mouvement, serait la figure et la forme spécifique qui n'est séparable de ces êtres que par la raison et pour le besoin de la définition. Paragraphe 18. D'ailleurs, le composé qui ressort de ces éléments n'est pas précisément la nature de cette chose. Il est seulement dans la nature, l'homme par exemple. Paragraphe 19. La nature ainsi comprise est plutôt nature que ne l'est la matière, puisque chaque être reçoit la dénomination qui le désigne bien plutôt quand il est en acte et en entéléchie que lorsqu'il est simplement en puissance. Paragraphe 20. À un autre point de vue, un homme vient d'un homme, mais un lit ne vient pas d'un lit. Aussi, les philosophes dont on vient de parler disent-ils que la nature du lit n'est pas sa configuration, mais le bois dont il est formé. Attendu que s'il venait à germer encore, il en proviendrait non pas un lit, mais du bois. Si donc la configuration du lit est de l'art précisément, la forme est la nature des êtres, puisque l'homme naît de l'homme. Paragraphe 21. Quant à la nature, qu'on entend au sens de génération, on devrait dire d'elle bien plutôt que c'est un acheminement vers la nature, car il n'en est pas ici comme de la médication que fait un médecin, laquelle est non pas un acheminement à la médecine, mais à la santé, puisque la guérison que le médecin opère doit nécessairement venir de la médecine et ne tend pas à la médecine. Or, la nature n'est pas dans ce rapport avec la nature. L'être que la nature produit va de quelque chose à quelque chose, ou se développe naturellement pour aller à quelque chose. À quoi va-t-il par ce mouvement naturel? Ce n'est pas apparemment à ce dont il vient, mais c'est à ce qu'il doit être. Donc, la nature, c'est la forme. Paragraphe 22. Je rappelle d'ailleurs qu'on peut donner deux acceptions diverses à ces mots de forme et de nature, puisque la privation est bien aussi en quelque façon une forme et une espèce. Paragraphe 23. Quant à savoir si, en outre, la privation est ou n'est pas une sorte de contraire, en ce qui regarde la génération au sens absolu, ce sera l'objet d'une recherche ultérieure. Chapitre 2. Sommaire. Rapports et différences des mathématiques et de la physique. Critique de la théorie des idées, qui se perd dans les abstractions. Deux aspects de la nature, la matière et la forme. Les anciennes philosophies, Empédocle, Démocrite, etc., n'ont étudié que la matière. Le vrai physicien doit étudier la matière et la forme tout ensemble. Citation du traité sur la philosophie. Paragraphe 1. Après avoir parcouru toutes les acceptions du mot de nature, nous devons dire maintenant en quoi l'étude des mathématiques diffère de l'étude de la physique, car les corps de la nature ont des surfaces, des solidités, des lignes et des points qui sont les objets particuliers des recherches du mathématicien. Paragraphe 2. Il faut voir en outre si l'astronomie diffère de la physique ou si elle n'en est qu'une branche. Paragraphe 3. Car si c'est au physicien qu'il appartient de savoir ce que sont le soleil ou la lune dans leur essence, on pourrait trouver étrange qu'il ne lui appartient pas aussi d'étudier les phénomènes secondaires que ces corps présentent. Surtout, quand on voit qu'en général, ceux qui s'occupent de l'étude de la nature traitent aussi de la figure du soleil et de la lune, et qu'ils recherchent, par exemple, si la Terre et le monde sont sphériques ou ne le sont pas. Paragraphe 4. Le mathématicien, quand il étudie les surfaces, les lignes et les points, ne s'en occupe pas en tant que ce sont là les limites d'un corps naturel, et il ne regarde pas davantage aux propriétés qui peuvent accidentellement leur appartenir en tant que ces propriétés appartiennent à des êtres réels. Aussi, il peut abstraire ces notions que l'entendement, en effet, sépare sans peine du mouvement. Et cette abstraction, qui n'amène aucune différence, n'est pas faite pour produire d'erreur. Paragraphe 5. C'est là ce que font précisément aussi ceux qui admettent le système des idées sans d'ailleurs s'en apercevoir, car ils abstraient les choses physiques qui sont bien moins susceptibles d'abstraction que les choses mathématiques. Paragraphe 6. Ceci devient parfaitement clair quand on se donne la peine de comparer de part et d'autre les définitions de ces choses et de leurs accidents. Ainsi, le pair et l'impair, le droit et le courbe, et, d'un autre point de vue, le nombre, la ligne, la figure, peuvent exister sans le mouvement. Tandis que des choses telles que la chair, les os, l'homme, ne peuvent pas se concevoir sans mouvement. Et l'on dénomme toutes ces dernières choses comme on dénomme le nez camard, et non comme on l'a fait pour le courbe. Paragraphe 7. C'est bien là encore ce que prouvent les parties des mathématiques qui se rapprochent le plus de la physique, l'optique, l'harmonie et l'astronomie. En un certain sens, elles sont tout à fait à l'inverse de la géométrie. Ainsi, tandis que la géométrie étudie la ligne, qui est bien physique, mais qu'elle ne l'étudie pas telle que cette ligne est dans la nature, l'optique, au contraire, étudie la ligne mathématique, non pas en tant que mathématique, mais en tant qu'elle joue un rôle dans la réalité naturelle. Paragraphe 8. Comme le mot de nature peut être pris en un double sens et qu'il signifie à la fois la forme et la matière, il faut étudier ici ce mot. comme nous le ferions si nous avions à nous demander ce que c'est que la qualité de Camus. Car les choses de ce genre ne peuvent exister sans matière. Et pourtant, elles ne sont pas purement matérielles. Paragraphe 9. Mais du moment qu'on reconnaît les deux natures, on peut hésiter doublement à savoir d'une part de laquelle des deux doit s'occuper le physicien et d'autre part s'il ne doit pas s'occuper uniquement de leur résultat commun. Mais s'il doit étudier ce résultat, ne faut-il pas aussi qu'il les étudie l'une et l'autre ? Par suite, connaître chacune de ces deux natures, est-ce le fait d'une même science ou d'une science différente ? Paragraphe 10. Si l'on regarde aux anciens philosophes, on pourrait croire que l'objet de la physique n'est que d'étudier la matière, car Démocrite et Empédocle ont à peine effleuré la question de la forme et de l'essence. Paragraphe 11. Mais s'il est vrai que l'art imite la nature, on peut dire que c'est là, à une seule et même science, d'étudier jusqu'à un certain point et tout à la fois la forme et la matière. Si par exemple, c'est au médecin d'étudier la santé et de plus la bile et le phlegme dans lesquels la santé consiste. Si de même, l'architecte s'occupe tout ensemble de la forme de la maison et de la matière de la maison, les murailles et les bois, et ainsi de tout le reste, on peut en conclure que la physique doit étudier les deux natures à la fois. Paragraphe 12. Ajoutez que c'est à une seule et même science d'étudier et le pourquoi et la fin des choses, et tous les éléments qui y concourent. Or, la nature est la fin et le pourquoi des choses. Car là où le mouvement est en continu, il y a une fin au mouvement. Cette fin est le dernier terme et le pourquoi. Aussi, l'exclamation du poète est-elle assez ridicule quand il dit « C'est la fin pour laquelle il avait été fait. » Car il ne suffit pas qu'un terme soit le dernier pour qu'il soit toujours une fin véritable. Et il n'y a que le bien qui en soit une. Paragraphe 13. Ainsi, les arts travaillent la matière, mais les uns la travaillent purement et simplement, tandis que les autres la façonnent du mieux qu'ils peuvent à notre usage. Et nous nous servons des choses comme si elles n'existaient qu'en vue de nous, puisqu'en effet, nous aussi, nous sommes bien une sorte de fin. Car le pourquoi peut s'entendre de deux façons, ainsi que nous l'avons dit dans nos livres intitulés « De la philosophie ». Il y a donc deux espèces d'art qui commandent à la matière et qui en jugent. L'un de ces arts étant celui qui emploie les choses et l'autre dirigeant comme un habile architecte l'industrie qui les façonne. L'art qui emploie les choses joue bien aussi en quelque sorte le rôle d'architecte dirigeant. Mais il y a cette différence entre les deux arts que l'un, l'art architectonique, connaît de la forme, tandis que l'autre, qui façonne les choses, connaît de la matière. Ainsi, le pilote du navire connaît quelle doit être la forme du gouvernail et de la commande, tandis que le constructeur sait de quel bois le gouvernail doit être fait et quel mouvement on en exige. Dans les produits de l'art, c'est nous qui façonnons la matière en vue de l'œuvre à laquelle nous la destinons. Mais dans les choses de la nature, la matière est toute faite. Paragraphe 14. Enfin, il faut ajouter que la matière n'est qu'une relation, puisque la matière varie avec la forme et qu'à une autre forme répond une autre matière. Paragraphe 15. Mais jusqu'à quel point le physicien doit-il étudier la forme et l'essence des choses? Doit-il les connaître comme le médecin connaît ce que c'est que les nerfs ou le fondeur ce que c'est que les reins qu'ils font? C'est-à-dire, dans une certaine mesure, chacune de ces choses servant en effet à une certaine destination. Et doit-il s'occuper des choses qui, bien que séparables au point de vue de la forme, n'en sont pas moins toujours dans la matière? Car l'homme et le soleil engendrent l'homme. Quant à savoir ce que c'est que le séparable et quelle est son essence, c'est une question spécialement réservée à la philosophie première.